timide en la matière. Ça, c'était une difficulté particulière. Donc, la petitesse du chant a essayé d'élargir l'illégitimité du thème lui-même, le fait qu'il soit peu porteur en termes académiques, et puis le fait surtout, et ça j'insiste beaucoup pour les jeunes chercheurs, que l'histoire de la recherche sur cette thématique-là n'avait pas été écrite. C'est-à-dire que je suis de la génération de Patrick Veil, de Gérard Noiriel, etc. Et en fait, personne n'avait fait une analyse sur le long terme des politiques migratoires, par exemple. Alors moi, j'ai piqué un peu dans tout ce qui existait, dans Georges Moucault, dans les analyses de Vined, sur l'analyse de la politique migratoire, sur ce qui avait été fait ensuite par Granotier, etc. Mais il n'y avait aucune analyse en continu, des politiques migratoires, ce qui est un aspect de ma thèse française depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait aucune analyse en continu du phénomène. Donc ça, c'était aussi une difficulté parce qu'on avait des regards très différents en fonction des besoins des époques diverses qui avaient écrit là-dessus. Personne n'avait fait d'atlas des migrations, ça n'avait jamais été cartographié, encore moins. Toute une série de corpus d'enquête n'existait pas non plus. La dimension politique était à peine apparente dans des enquêtes comme celle de Gérard Stutzel de 1954 et dans d'autres grandes enquêtes qui avaient été faites. Donc c'était vraiment, il fallait regarder à la loupe pour trouver du politique dans un champ qui ne se considérait pas comme tel. Les histoires de vie étaient balbutiantes en général. La thématique des migrations n'était pas un objet de recherche en sciences politiques. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'était largement inclus et occulté par un regard qui était exclusivement tourné vers le monde du travail. Alors, progressivement, il y a eu une sorte de construction de ce qu'on pourrait appeler un champ, celui des migrations en sciences politiques, au sein de la discipline, mais en même temps toujours dans une très grande difficulté dans laquelle on est toujours aujourd'hui, que j'ai pu constater en étant à la commission du CNRS et dans d'autres instances, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire de la science politique et on nous demande en même temps de faire du pluridisciplinaire. Donc là aussi c'est une quadrature du cercle difficile dans notre discipline jeune. Alors quels sont les concepts qui sont les plus mobilisés par la science politique à propos des migrations et comment les migrations elles-mêmes, disons, façonnent la science politique sur ces différents terrains. Alors là, je me réfère non pas à mon atlas, mais à un livre que j'ai fait sur la question migratoire au XXIe siècle et dans notre tentative de réflexion de sciences politiques et de relations internationales sur les migrations à usage des étudiants, hein. C'est un livre qui va être réédité pour la troisième fois qui interroge à mon sens trois champs particuliers de la science politique. D'une part la question de l'état-nation, d'autre part la question de la citoyenneté et enfin la question des relations internationales. De façon très classique, je fais le découpage parce que c'est plus simple pour moi. Alors tout d'abord l'état-nation. La migration, mais on a beaucoup discuté là-dessus cet après-midi, questionne très fortement l'État-nation, puisqu'elle propose d'une certaine façon une transgression par rapport à toute une série de symboles de l'État-nation, qui sont les frontières, j'y reviendrai pas, mais c'est très important. Et de ce point de vue-là, c'est pas seulement l'immigration, c'est le migrant, l'individu migrant, par son comportement de franchissement des frontières, devient un acteur à part entière des relations internationales. Ça, c'est tout à fait intéressant, parce que même le petit Aylan, par exemple, pose une question de relations internationales par son simple décès dramatique sur la côte turque. Donc l'individu prend une part très importante dans les relations internationales. Donc ça, c'est un aspect important, parce que c'est une transgression des frontières. Également, autre type de questionnement par rapport à l'État-nation, question, j'y reviendrai pas, du transnationalisme, puisqu'on a beaucoup discuté là-dessus, mais ça a été également un concept très utilisé en sciences politiques. La question également de la définition de politique publique de relations internationales dans un contexte où l'État-nation est de moins en moins maître du jeu. ce qui est questionné à travers les migrations, c'est la question, la remise en question de la souveraineté des États. C'est ce que demandent souvent d'ailleurs les opinions publiques dans les sondages. Est-ce que la souveraineté est toujours aussi présente, parce que c'est un symbole fort de l'État-nation, et on s'aperçoit que il y a une sorte de clivage, d'incompréhension entre un domaine qui est beaucoup plus large que celui de l'État, qui est celui des migrations, que l'État-nation n'est plus en mesure de gérer seul, et donc la question précisément de la, d'un espace plus large de réponse politique en la matière, la construction de pas seulement d'espace politique, mais de systèmes politiques internationaux et de régimes politiques internationaux en réponse aux migrations. Donc l'État-nation est très fortement contesté dans sa légitimité par tous les attributs de sa souveraineté, qui sont la frontière, qui sont le pouvoir discrétionnaire de réponse à telle ou telle définition, par exemple sur l'asile, la question de la définition de la nationalité, qui est fortement chahutée à travers précisément la double nationalité, qui est une forme de contournement précisément de la frontière, et également le dépassement de l'État-nation par des pratiques transnationales, qui sont celles des migrants, qui finalement soit effacent un peu les frontières, soit contournent les frontières par tout ce qui passe dans quelque chose qui n'est pas d'État à État, mais d'acteur non étatique à un autre acteur non étatique, à travers les transferts de fonds, à travers les mariages mixtes, à travers les échanges culturels, à travers les médias, à travers tout ce qui circule par-delà les frontières. Donc un questionnement fort par rapport à l'État-nation, et dans ce questionnement s'ajoute la question de l'Europe. L'Europe a beaucoup contribué à interroger du point de vue de la science politique les questions migratoires, de même que les migrations ont elles-mêmes beaucoup interrogé l'État-nation avec l'Europe, puisqu'il y a des tas de concepts nouveaux qui ont été introduits autour de la gestion des frontières, précisément non plus nationales mais européennes, et autour également de précisément du changement des processus de décision, où on est passé de l'intergouvernemental à la une approche disons complètement européenne, l'européanisation des politiques, etc. Il y a eu des quantités d'analyses qui ont été faites sur ces niveaux de prise de décision, et puis aussi du niveau d'analyse multiniveau, comme on dit en sciences politiques, locale, nationale, européenne, etc. On abonde de travaux en la matière. Deuxième questionnement, la citoyenneté. La citoyenneté est très très fortement interrogée par les migrations en sciences politiques. D'une part parce que il y a toute une hiérarchisation, et de ce point de vue-là, l'analyse politique a beaucoup enrichi la réflexion sur la citoyenneté en se penchant sur les migrations. Une hiérarchisation fine s'est faite des statuts de citoyenneté des migrants, du sans-papier aux citoyens. Il y a des quantités d'ouvrages qui sont sortis là-dessus. Il y a des concepts nouveaux qui ont été introduits, comme par exemple la notion de « denizens » de notre collègue Thomas Hammar, un politologue suédois, étudiant les formes d'expression politique locale des étrangers à l'époque, dans les années 75. Également la réflexion sur le vote ethnique dans les sociétés où l'ethnicité n'a pas beaucoup de place pour le vote, comme les sociétés d'accueil. La notion aussi de tout ce qui est vote à distance, pratiqué et encouragé par les pays de départ comme expression de leur fidélité citoyenne à l'égard du pays d'origine. Les réflexions sur les mobilisations des sans-papiers, des mobilisations citoyennes finalement des sans-papiers, Johanna Siméan par exemple, s'inspirant des travaux de Sidney Tarot sur la mobilisation transnationale, étudiant ces formes d'expression un peu insolites de gens qui n'ont pas de statut de citoyen mais qui s'expriment sur la scène publique. Également la dissociation entre citoyenneté et nationalité à propos du vote des étrangers non communautaires. Et puis d'autres formes d'expression qui sont des formes de citoyenneté mais périphériques, notamment tout ce qui est l'analyse des émeutes urbaines, des marches, toute une série de formes d'expression qui n'étaient pas au cœur de la citoyenneté, mais qui sont devenues incontournables sur le terrain des mobilisations transnationales, qui sont des formes d'expression de protestation qui ont été très étudiées, et puis aussi le traitement discriminatoire de gens qui sont citoyens mais qui ne sont pas considérés comme tels. Tous les travaux sur les discriminations interrogent la question de la citoyenneté et également les questions du croisement de la citoyenneté avec l'identité, avec l'islam, etc. On regorge de travaux en la matière, et tout ça, ça s'est développé en 30 ans. Il y a énormément de travaux sur la citoyenneté qui ont enrichi un concept qui n'intéressait personne, la notion de citoyenneté, dans les années 75-80. Citoyenneté, c'était à la fin d'un volume, d'un traité de droit constitutionnel en général, écrit par un grand mandarin en 12 volumes, et puis tout à fait dans le dernier volume, numéro 12 ou 13, il y avait une petite partie de ce volume qui était consacrée à la citoyenneté. C'était un sujet complètement ringard, si j'ose dire, dans les années 70-80. Puis il y a eu une réémergence de la notion de citoyenneté avec la marche des beurs, avec la réflexion sur le droit de vote local des étrangers, avec toutes les formes de dissociation entre citoyenneté et nationalité introduites par l'Europe. Les citoyens européens sont non nationaux, mais citoyens, etc. Les formes d'expression de citoyens périphériques comme les sans-papiers, et puis également la transnationalisation d'expression collective autour des discriminations et de quelques autres sujets, comme le vote à distance. Donc là aussi, un fort questionnement en la matière introduit par le fait que la science politique se soit intéressée au sujet et que l'immigration ait questionné des concepts clés, un concept clé de la science politique, qui est celui de la citoyenneté. Troisième terrain fortement exploré par la recherche sur la migration en sciences politiques, les relations internationales. Là, je suis au cœur de mon champ de recherche quotidien, puisque je suis dans un laboratoire de relations internationales. Et en fait, on est aussi au cœur de réflexions nouvelles. D'une part, la migration, qui était très absente des relations internationales classiques, c'est-à-dire héritée du droit public international, les États qui commercent entre eux et qui font du droit international, il y avait très très peu de place pour l'individu, et puis très très peu de place pour ce qui n'est pas la grande politique, c'est-à-dire les questions de diplomatie. Et finalement, progressivement, les migrants sont devenus, se sont insérés dans ces questionnements, et ont fini par induire d'une certaine façon une diplomatie des migrations internationales. Aujourd'hui, il y a une diplomatie des migrations internationales qui est un sujet très émergent parmi les sujets de thèse, mais aussi parmi les questionnements. Je vais en donner quelques exemples. Tout d'abord, un sujet qui n'intéressait personne, ou presque personne, qui était marginal, notamment à notre équipe fondatrice de l'ERMI, mais aussi bien après, les réfugiés. C'était tout à fait un sujet qui... Il y avait très très peu de travaux là-dessus. C'était quelques juristes qui s'intéressaient aux réfugiés. Aujourd'hui, c'est un sujet central dans les questions d'actualité, mais ça reste un sujet central dans les relations internationales. On ne peut plus du tout faire l'économie de cette réflexion sur les réfugiés, qui interroge les diplomaties des États, qui interroge est-ce qu'on peut avoir une politique commune de réfugiés, etc., compte tenu du fait qu'on a des diplomaties différentes en Europe. Il y a des quantités de questionnements qui sont apparus. Donc les réfugiés sont devenus un sujet central. Deuxième question, et puis aussi des gens qui ont leur place nulle part, comme les réfugiés. Ils n'ont pas leur place dans l'État-nation, puisqu'ils en sont sortis, ils introduisent un désordre dans l'ordre international des États. Les apatrides, par exemple, aussi, autre désordre l'ordre international classique des États. Les placés environnementaux, on ne sait pas où les mettre. Pour l'instant, ils n'ont pas de statut. Avec la conférence climat, il y a un petit groupe de travail, l'initiative Nansen, qui s'est constitué là-dessus, mais ça ne va sans doute pas déboucher sur un statut. Donc, il y a un tas de gens qui, aujourd'hui, dans un monde globalisé, comme ça a été dit, échappent à une classification simple où on mettrait tout le monde dans des casiers. Et puis, il y a tous ceux qui introduisent des transgressions et du désordre dans ce système international. Donc là aussi, on est dans une forme de transgression des relations internationales classiques. Et puis, plus fondamentalement, le fait que les migrations n'intéressent plus seulement les pays d'accueil, mais aussi les qui font de la diplomatie à travers les accords bilatéraux, les accords de réadmission, l'externalisation des frontières, qui a été analysée notamment par Didier Bigot, etc. Mais aussi le fait que les pays de départ s'intéressent furieusement à la question des migrations, parce que d'une part, eux-mêmes, ils sont devenus des pays d'immigration, ils construisent des politiques d'immigration, mais aussi ils essaient de négocier avec les pays d'accueil toute une série de sujets pour lesquels ils se sentent un peu otages et ils ne veulent pas être des otages, donc ils s'intéressent à plusieurs choses. D'une part, ils essayent de mettre en balance, si j'ose dire, la pression qui leur est faite de contrôler leurs frontières et puis les visas, par exemple. Donc là, il y a beaucoup de négociations et beaucoup d'actes internationaux qui sont, avec les accords qui sont conclus. Il y a la question des politiques diasporiques. De plus en plus, les États de départ construisent une sorte de diplomatie qui leur permet parfois d'exister pour des États minuscules qui, sans leurs migrants, seraient complètement absents de la scène internationale. Des pays comme le Népal, ou des tout petits, vraiment, ou l'Érythrée même, en ce moment c'est la guerre, mais habituellement la force de l'Érythrée sur la scène internationale, c'est des migrants organisés en diaspora, etc. Donc ils existent en partie grâce à cela. Et puis des gros pays de départ comme la Turquie, le Maroc, le Mexique, ont un poids international qui est largement lié aujourd'hui à leurs migrants à l'étranger. Ils développent toute une série de politiques diasporiques. La tolérance ou la reconnaissance de la double nationalité, par exemple. Beaucoup de pays étaient très réticents depuis le départ, et puis comme le Maroc, pendant longtemps, était très réticent à cette réalité. Le fait qu'ils acceptent que leurs nationaux votent à l'échelon local dans les pays d'accueil. Pendant très longtemps, ils ont été très réticents. Ça a été le cas de l'Algérie, du Maroc, etc. Aujourd'hui, ils ont compris que c'était une force d'influence, une diplomatie d'influence, parfois même d'ingérence ou d'intrusion dans les affaires politiques internes des pays d'accueil, également le soutien aux associations, l'organisation de l'islam à distance. Un pays laïque comme la Turquie a une structure qui s'appelle la Diyanet, qui gère l'islam à l'étranger des Turcs en Europe de façon complètement diplomatique. Donc là aussi, on a une diplomatie des migrations internationales. Également les politiques linguistiques. Toute une série d'instruments nouveaux se sont déployés de la part des pays de départ pour être présents sur la scène internationale et bousculer finalement l'approche des relations internationales en introduisant la thématique migration, mais aussi du point de vue des pays de départ. Et aujourd'hui, c'est particulièrement important parce qu'il y a autant de migration qui va vers le sud que vers le nord de la planète. Donc, parmi les sujets émergents, regardons ce qui se passe au sud. On est encore d'une ignorance totale en la matière. Les chiffres sont approximatifs, j'ai pu en faire l'expérience quand j'ai fait les atlas. Et puis, il y a peu de politiques migratoires qui sont construites au sud pour les pays qui deviennent migrants et les gens qui sont chez eux. Beaucoup de pays ne sont pas signataires de la Convention de Genève, etc. On ne sait pas très bien qui entre, qui sort. Tout ça est assez... Et puis, il y a des tas de gens qui sont dans des situations sans aucun statut, qui échappent finalement aux relations internationales. Il y a des apatrides, il y a des déplacés environnementaux, il y a des gens qui sont réfugiés de fait, mais qui n'ont aucun statut, etc. Donc, c'est tout à fait intéressant d'avoir un regard du Sud sur non seulement ce qui se passe au Sud, mais aussi la façon dont les pays du Sud regardent leur migration vers le nord. Donc là, ça a bousculé complètement les relations internationales. Et puis ce qui a encore plus bousculé les relations internationales, c'est l'approche en termes de gouvernance. La gouvernance, c'est un terme un peu jargonnant de la science politique, mais il y en a beaucoup malheureusement dans notre discipline, qui propose une approche multilatéraliste. C'est-à-dire que le processus de décision est fait par des acteurs multiples, qui sont des acteurs gouvernementaux, non gouvernementaux, des individus éventuellement, etc. Et aujourd'hui, il y a un processus de gouvernance mondiale des migrations internationales qui a été défini depuis le début des années 2000, à l'initiative entre autres de Kofi Annan, qui adorait le multilatéralisme, et qui a initié ce qu'on appelle le dialogue de haut niveau migration-développement, les forums mondiaux annuels migration et développement, etc. Alors ce qu'on peut tirer, moi j'ai fait une analyse avec Bertrand Badi dans un groupe de travail là-dessus, très, très intéressant, parce qu'on a fait des enquêtes, on a fait une centaine d'entretiens complètement non directifs là-dessus, et il y a deux choses que j'ai retenues là-dedans. D'une part, c'est que c'est un début de mobilisation, il y a un début de mobilisation sur la scène internationale pour la cause de la mobilité, faire de la mobilité un bien public mondial, par exemple. Et puis en même temps, c'est une cause qui progresse lentement. Pourquoi ? Parce que on a ce que mon collègue Aristide Zolbert, qui est un des premiers politistes des relations internationales sur ces questions, appelait les strange bedfellows, les étranges compagnons de lit. C'est-à-dire, en fait, si on regarde ceux qui militent pour plus d'ouverture des frontières ou plus, pour plus de fermeture, on a des gens très disparates. Donc il y a très peu de progression de la mobilisation collective. Donc c'est aussi une occasion d'analyser la mobilisation collective à l'échelle internationale sur ces sujets qui montrent que d'un côté on a les grandes entreprises et puis on a les associations de sans-papiers et puis de l'autre côté on a les ultranationalistes et les défenseurs du welfare state pour caricaturer. Donc et effectivement la cause avance peu, mais en même temps il y a toute une série d'innovations sur la scène internationale qui s'est créée grâce à cette gouvernance. Et puis il y a des espaces, et déjà j'en reviens à ma carte, des espaces régionaux de libre circulation qui se sont créés dans le monde. Et on a bien sûr l'Europe pour les Européens, pour les non-Européens on peut voir que ça ne fonctionne pas très bien, mais il y a 22 espaces de libre circulation. Donc l'État-nation est déjà dépassé par toute une série de pratiques d'ouverture des frontières à des fins surtout commerciales ou de facilitation de la mobilité de la main-d'œuvre, et qui dessine pas seulement ces lieux où les frontières sautent d'une certaine façon, mais aussi ce qui devient des systèmes. Et parmi ceux qui ont beaucoup apporté à la réflexion en sciences politiques, il y a Douglas Massey qui avait défini la notion de système migratoire international, qui a été un peu reprise par Stephen Castles dans son livre sur The Age of Migration, où finalement il découpe le monde en qu'est-ce qui fait système. Il y a une offre et une demande de main-d'œuvre, il y a un système institutionnel qui permet cette mobilité, il y a des complémentarités démographiques, il y a des liens transnationaux, culturels, etc., linguistiques, donc toute une série d'éléments. Et par exemple, pour cette carte-là, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf pour dire qu'en regardant, par exemple, les chiffres qui sont fournis chaque année par le département de la population des Nations Unies, on s'aperçoit qu'à l'intérieur des espaces que j'ai entourés en gris, aujourd'hui, il y a plus de migrants qui viennent de la même région que de migrants qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un ensemble, disons, géographique, mais aussi c'est un système qui est accompagné par des institutions de liberté de circulation et par une réalité de liens transnationaux qui créent ces espaces qui sont souvent complétés par ce que certains appellent des régimes migratoires. Des régimes migratoires, c'est une sorte de bricolage des institutions avec des réalités pour arriver à créer quelque chose qui existe en tant que tel et qui est soutenu par des pratiques administratives. Donc aujourd'hui, on a une série de systèmes internationaux migratoires qui gravitent à travers le monde. Et c'est une des questions qui m'a été que je me suis posée quand j'ai fait l'Atlas, justement. Parce que je me suis dit, par exemple, pour les États-Unis, c'est facile, on peut écrire en 2 pages. Alors, par exemple, le découpage pour l'Asie. Ben, là, j'étais obligée de me dire, qu'est-ce qui fait système international pour découper l'Asie dans des espaces qui soient significatifs d'une réalité migratoire. Et là, c'est une vraie question que je me suis posée pour l'Atlas, parce qu'il fallait que je trouve un découpage qui avait un sens en termes de flux, en termes de système institutionnel, etc. Et ce que j'ai pu observer, par exemple, parce que j'ai travaillé pendant quelques années avec ma collègue Anne de Tinguy sur les migrations Est-Ouest, c'est que la Russie, qui est la 4e destination migratoire au monde, aujourd'hui a défini autour d'elle un système migratoire avec suppression des contrôles d'identité de courte durée pour faciliter avec la CEI, la migration intérieure, etc. Donc il y a un vrai système migratoire autour de la Russie, incluant l'Asie centrale et le Sud-Caucase, par exemple, qui d'ailleurs est parfois en compétition avec le système migratoire qui a été construit par la Turquie, qui a aboli les visas avec 48 pays pour faciliter le commerce, le tourisme, etc. Et donc là, il y a une sorte de collision de deux systèmes migratoires. Par exemple, pour les gens de l'Asie centrale, les élites vont en Turquie, mais les travailleurs manuels vont en Russie, par exemple. Donc là, il y a des tas de phénomènes comme ça qu'on peut observer à travers le monde de cette nature. C'est vrai aussi pour l'Asie du Sud-Est, c'est vrai pour toute une série d'autres espaces dans le monde. Donc la notion de système migratoire me paraît tout à fait significative. Également les paradoxes. La science politique a montré, notamment les travaux de James Holyfield, par exemple, les paradoxes qu'il peut y avoir. Par exemple, d'un côté, on est dans un monde d'économie libérale, globalement, et en même temps, on est dans un durcissement du sécuritaire. Comment est-ce qu'on peut, concilier l'approche sécuritaire, d'un côté, et la libéralisation des économies de l'autre. Là, on est en contradiction absolue, par exemple. Et ça, une analyse de sciences politiques le montre très bien. Et on est au cœur de cette réalité pour l'Europe ou pour les États-Unis, par exemple. Également, autre analyse qui paraît intéressante, précisément les travaux de Bertrand Badie, qui a travaillé sur la diplomatie de connivence, sur puissant ou solidaire, etc. L'absence de la crise de la solidarité sur le terrain international en termes de politique migratoire, mais aussi le fait que pendant très longtemps, on a eu très peu de regard sur les politiques définies par le Sud à travers leurs migrants. Or, parfois, elles existaient depuis longtemps, y compris dans un arrière-plan historique qui date de l'après la fin de la guerre d'Algérie. Par exemple, l'Amicale des Algériens en Europe avait une certaine politique migratoire à l'égard de son émigration. Bon, tout ça, le regard du Sud a apporté beaucoup à la connaissance des migrations en termes d'analyse de sciences politiques. Et puis aussi, tout ce qui est analyse politique diasporique, les travaux de Nancy, et aussi de Stéphane Dufoy, etc., on a beaucoup enrichi la réflexion. Et puis, bien sûr, toute la réflexion sur le monde liquide de Bauman, hein, la contradiction entre un monde liquide d'un côté et toute la réflexion sur cette fluidité de l'international, et puis de l'autre côté, la crise de la souveraineté, la crise de l'identité, les frilosités des opinions publiques. Et ça, c'est vrai que la science politique est très riche pour montrer ces contradictions. Alors, pour terminer, je dirais quelles sont les limites, finalement, de ces approches. Alors, il y en a beaucoup, hein, il y a une grande richesse de thématiques aujourd'hui qui sont ouvertes en sciences politiques à travers l'analyse des migrations. Je vais en citer quelques-unes comme ça rapidement. Question d'identité, citoyenneté, expression politique et associative, la question des frontières, la question de la définition des politiques migratoires et des politiques diasporiques des pays de départ, la question de la bureaucratisation de la gestion des migrations, les travaux d'Alexis Spire, les politiques publiques multiniveaux, le vote des populations issues de l'immigration et le vote à distance des migrants dans leur pays d'origine, la question des réfugiés, la question de citoyenneté et islam. Il y a une très grande richesse de thématiques qui ont été d'ailleurs largement développées à travers leurs thèses par beaucoup de mes étudiants, puisque j'ai essayé de recenser mes 25 étudiants que j'ai eu en thèse, et je me suis aperçu que finalement ils pouvaient se ranger autour de trois thématiques en gros, qui étaient tout ce qui était frontières, gestion politique publique des migrations, de l'autre côté tout ce qui concernait les questions de citoyenneté au sens large, et puis de l'autre côté un regard plutôt relations internationales et regard sud vers le nord. Donc, pour caricaturer. Parmi les thèmes émergents, précisément, tout ce qui concerne précisément à la fois l'individu comme acteur de relations internationales et puis les politiques définies par les pays d'origine. Mais je voudrais juste dire qu'il y a des limites quand même dans ces approches. D'une part, le risque de monodisciplinarité. C'est-à-dire que si on enferme une analyse des migrations dans la seule science politique, on risque d'avoir un sujet traité de façon très pauvre, qui notamment va nier l'aspect historique, et ça c'est très très fréquent dans les analyses notamment qui sont faites en la matière, et puis on risque d'être happé par une tendance disons, tentaculaire qui est celle des politiques publiques. Moi je suis en fin de carrière, mais je suis très intéressée, mais inquiète aussi, par la montée de l'emprise des politiques publiques sur la science politique en général, et notamment sur la science politique traitant des migrations. Aujourd'hui, et le risque, c'est pas seulement de tuer finalement d'autres champs de la science politique, ce qui est vrai, puisqu'il y a peu de postes, donc si on prend quelqu'un en politique publique, ça veut dire qu'on n'aura pas quelqu'un qui analyse la sociologie électorale, ni le comparatisme institutionnel, ni l'étude les idées politiques, etc. Mais par ailleurs, on étudie plus, et ça c'est une tendance que je vois dans beaucoup de thèses et de projets de recherche, finalement, comment se prend la décision? On analyse plus, mais à la loupe, hein, comment se prend la décision, que finalement, quelle est la décision elle-même? Et ça, c'est un risque énorme. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui sont très forts pour dire telle décision, elle a été prise à Bruxelles, dans des habitus, autour du café, machin, bon, d'accord. Et après, la décision elle-même, moi, ça m'intéresse quand même. Alors, on a des gens qui connaissent rien finalement à leur champ de recherche, mais qui sont très bons pour faire fonctionner leur système. Donc il faut que le système tourne, même si la réalité est très différente du système analysé. Et ça, c'est un risque énorme que j'ai vu en général à propos de l'analyse des politiques publiques, et plus particulièrement sur celui des migrations. C'est-à-dire que les gens, ils sont très forts pour faire fonctionner leurs instruments d'analyse, mais après, sur ce qui sort de tout ça, rien. Il n'y a pas d'expertise. Deuxième risque, la difficulté, et qui persiste, mais qui est peut-être moins grande aujourd'hui, mais quand même, la difficulté dans le travail de terrain, parce qu'en sciences politiques, quand même, on fait souvent un travail de terrain, pour l'accès à certaines populations. Parce qu'on frise la prise de risque à l'égard du jeune chercheur ou de l'étudiant qui fait son terrain. Quand on va analyser, par exemple, j'ai une étudiante qui a fait une thèse sur Gibraltar, par exemple, où elle est allée voir les passeurs, etc. Elle était espagnole, de Grenade, elle s'est fait passer pour une Marocaine qui voulait passer. Je dis quand même, elle a été fréquentée pour voir un peu les prostituées qui avaient fait appel à ces passeurs. Je dis quand même, prenez un risque, etc. Donc là, on est à la limite de la prise de risque et des populations très fragile, très difficile, et donc là, vraiment, on est en limite. Une autre qui a travaillé sur les Afghans, elle m'a dit, oui, elle fait son terrain en Afghanistan, elle étudie le retour des Afghans vers le Royaume-Uni, vers l'Iran, etc., actuellement, après le conflit, et en fait, moi, je trouve que c'est à la limite du risque, quoi, d'aller enquêter en Afghanistan, etc. Donc là aussi, il y a des terrains qui sont particulièrement difficiles. Ou alors des gens qui parlent peu. Les enquêtes auprès des gens qui se cachent aussi, des sans-papiers, des déboutés du droit d'asile, les extrémistes religieux, etc. Là, on est sur une sorte de fil du rasoir en la matière, et notamment pour les étudiants en thèse ou pour ceux qui font des études sur des populations particulièrement fragiles, ou sur les Roms, même parfois on est en limite de prise de risque. Ensuite, autre difficulté, je terminerai là-dessus, puisque c'est un peu notre rôle aussi, le politologue est souvent finalement... se considère souvent, pour une raison de citoyenneté, en nécessité de répondre aux politiques publiques, c'est-à-dire de dialoguer avec les politiques publiques. Là, c'est très, très difficile. On est dans le savant et le politique de Max Weber, c'est-à-dire, dans l'ensemble, tout ce qu'on fait, on est nombreux maintenant, comme politologues, à travailler sur les questions migratoires, on est très, très peu écoutés en la matière. On ne cherche pas nécessairement à être écoutés, mais on se dit quand même, depuis 30 ans, on dit que la politique de retour qu'au développement, ça est un échec. Bientôt à La Valette, il va y avoir une conférence européenne là-dessus. Ils vont financer un fonds pour faire du retour développement. On peut se dire quand même c'est dommage parce qu'il y a des quantités de travaux, de littérature juridique qui ont été faits. Et là, entre le résultat des travaux qui ont été faits en analyse de politiques publiques qui ont été faites là-dessus et puis la prise de décision qui consiste à refaire ce qui a déjà été fait depuis 30 ans. Est quand même inquiétant. De même pour le sécuritaire, il y a des quantités de travaux qui ont été faits sur la sécurisation des frontières, l'externalisation des frontières, etc. Là aussi, on peut s'interroger sur l'utilité, finalement, de tous ces travaux quand on voit qu'on recommence dans ces politiques toujours. Pareil pour les politiques de retour, pour les politiques développement-migration, on a montré que ce n'était pas une alternative depuis 30 ans, etc., mais on recommence dans les politiques publiques là-dessus. Sur les discriminations policières, c'est une sorte de récurrence, malheureusement, dans l'actualité, mais tous les travaux qui ont été faits là-dessus, sans doute, n'ont jamais été lus, puisqu'il y a toujours un problème de discrimination policière et de surdité des acteurs publics. Donc là, il y a une vraie interrogation à la matière. Finalement, qu'est-ce qu'on fait comme chercheur en sciences politiques si finalement le message ne passe pas? Et on se sent particulièrement interpellé parce qu'on dit on fait de la science politique, on analyse, et puis finalement, non, ça sert à rien, on recommence, etc. On a l'impression de parler dans le désert. Et puis aussi, l'autre risque, à mon avis, c'est le risque d'une certaine façon de disparaître en tant que politologue français ou même européen par rapport à l'importance des concepts qui nous viennent d'outre-Atlantique. Là, il y a un vrai risque, puisqu'on travaille en français, mais aussi dans d'autres langues, et notamment en anglais, et parfois les concepts nous sont un petit peu imposés par des politologues de l'extérieur qui raisonnent en fonction de leurs propres concepts. Et là, effectivement, je crois qu'il faut être très vigilant pour faire exister le travail des chercheurs européens en sciences politiques, particulièrement, parce que c'est une discipline beaucoup plus développée aux États-Unis, entre autres, qu'en Europe, sur ces terrains-là, pour que les concepts également sortant des universités européennes aient une quelconque présence. Donc voilà un petit peu ce que je dirais sur mon propre regard. Et puis, en terminant sur le fait que, moi, aussi le sentiment que j'ai eu en tant que politologue travaillant sur les questions de migration, c'est que si on travaille beaucoup, puisque moi je travaille beaucoup aussi dans un contexte international, puisque je suis dans un laboratoire, non pas du tout de migration, mais de relations internationales, les thèmes sur lesquels on est interrogé comme politologue travaillant sur les migrations sont très différents selon le pays avec lequel on travaille. Par exemple, si on est au Royaume-Uni ou si on fait un livre en anglais pour un éditeur britannique, on va nous demander de travailler sur les relations, les questions de discrimination, les questions de vivre ensemble, etc. Ça les passionne, il y a une forte demande. Donc c'est là-dessus, mais ils ne nous poseront aucune question sur notre politique migratoire. Si on travaille avec des Allemands, on aura plutôt une demande de comparatisme sur les politiques, par exemple, à l'égard des réfugiés ou sur les questions de politique sociale, etc. Donc on aura un autre type de questionnement. Si on travaille avec les Italiens, ce qui va les intéresser, c'est les sans-papiers et la segmentation du marché du travail. Le type de questionnement dépend beaucoup, même en termes de sciences politiques, dépend de l'interlocuteur que l'on a. Et on n'est pas interpellé sur les mêmes thématiques selon le contexte international dans lequel on s'inscrit. Et ça, c'est assez intéressant parce que finalement, ça donne des possibilités de comparatisme à l'infini. Mais finalement, le regard aussi qu'ils ont sur la France peut être très différent et lui-même extrêmement stéréotypé sur ce qu'ils attendent qu'on dise et qu'on écrive sur tel ou tel sujet, parce qu'il y a un découpage qu'ils font qui n'est pas nécessairement le nôtre ou celui qu'on ferait quand on analyse une situation.